Jean Vilain vous présente ses nouvelles vilaines.
Vilaines nouvelles ?
Nouvelles vilaines.
Vilaines nouvelles.
Nouvelles vilaines. Nouvelles vilaines. Vilaines nouvelles. Nouvelles vilaines. Histoire. Eh bien, bonjour. Nous allons retrouver nos Indiens des plaines américaines. La semaine dernière, je vous ai quitté en vous parlant des légendes qui se racontaient le soir à la vieillée, que les vieux racontaient aux jeunes pour finalement leur apprendre la vie. Retrouvons nos Indiens. Une de ces histoires cheyennes était tellement sacrée qu'elle requérait du narrateur une prière de pardon avant d'entamer son récit. L'histoire rapportait comment le bison avait été donné aux humains par la femme aux cheveux jaunes. Le conteur expliquait que la tribu, faute de disposer de gros animaux, ne subsistait autrefois que grâce aux poissons, aux oies et aux canards. À une certaine époque, les Indiens eurent même si faim que les chefs dépêchèrent deux jeunes hommes avec mission de ne revenir qu'après avoir trouvé des aliments. Prenant leur aventure avec beaucoup de sérieux, les jeunes gens marchèrent 8 jours sans se nourrir et devinrent très faibles. Apercevant une haute montagne, ils décidèrent de la gravir pour y mourir, car cette cime servirait d'amer et marquerait l'emplacement de leur tombe. Alors qu'ils s'en approchaient, un cours d'eau leur barra la route, et en cherchant à le franchir, ils se heurtèrent à un serpent d'eau qui se saisit fortement de l'un d'eux. De la cime descendit alors un vieil homme, vêtu d'une peau de coyote et portant un couteau. Les coyotes, comme chacun le sait, sont adroits et compétents. L'homme coyote possédait de toute évidence de puissants pouvoirs. Il plongea dans l'eau et coupa la tête du serpent. Ensuite, en compagnie de son épouse, une vieille femme, il conduisit les jeunes hommes jusqu'à la cime. Les rochers s'ouvrirent comme une simple porte. À l'intérieur de cet abri, le couple soigna les jeunes gens et les nourrit. Le vieil homme coyote et son épouse avaient une fille à la superbe chevelure, la femme aux cheveux jaunes. L'homme suggéra qu'elle leur servît de sœur ou de femme, et l'un des deux jeunes gens accepta de l'épouser. L'homme coyote laissa la jeune fille partir et, entre autres dons, il leur apprit à planter le maïs et leur enseigna l'usage du bison dans l'alimentation. Mais il indiqua à sa fille qu'elle ne devait jamais exprimer de la pitié à l'égard des souffrances d'un animal. Les Cheyennes furent très heureux du retour des deux jeunes gens et de la femme, car bientôt, environnés de bisons, ils purent se procurer toute la viande dont ils avaient besoin. Mais, peu après, des adolescents entraînèrent un jeune bison jusque dans le camp et lui jetèrent de la poussière dans les yeux. « Mon pauvre veau, s'exclama la femme aux cheveux jaunes. Immédiatement, elle se rendit compte qu'elle venait de violer le tabou imposé par son père, qui était de ne pas avoir de pitié à l'égard des souffrances des animaux. À partir de ce jour-là, tous les bisons disparurent. La femme savait qu'elle ne devait retourner chez ses parents. Elle partit donc, escortée des deux jeunes gens, et l'on ne revit jamais le trio. La légende indique que plus tard, d'autres figures mythiques firent revenir les bisons et rendirent à la tribu toute sa prospérité. Comme ces histoires le suggèrent, les Indiens ne considéraient jamais comme acquises les libéralités de la nature. Tout au contraire, leurs croyances leur font admettre que celle-ci a une tendance à décliner. D'après leur vision du monde, les énergies sous-jacentes de la nature s'épuisent du fait de leur activité. Et à moins que l'homme ne fasse quelque chose pour arrêter cette dissipation des forces énergétiques, les animaux seront progressivement appelés à disparaître, les plantes à se flétrir et les hommes à mourir de faim. Un tribu des plaines, pour le moins, recourait sporadiquement à la grande cérémonie de la danse du soleil pour conjurer ce désastre. Le nom de ce rite est issu de l'appellation Sioux, qui peut se traduire par « fixer le soleil ». Mais sa signification est mieux expliquée dans le nom Cheyenne, qui désigne le cadre dans lequel se déroulait la cérémonie. La hutte de la nouvelle vie, ou bien la hutte de la régénération. Le rituel avait tout simplement pour but de réengendrer le monde. Parce que les rites de cette danse du soleil acquièrent une complexité toute particulière chez les Arapahos, les Cheyennes et les Sioux-Glada, on pense que leurs origines, ou les développements à partir de rites plus anciens, découlent des usages de l'un de ces groupes. Sans doute, la source de cette danse se situe-t-elle quelque part dans le Haut-Missouri, car les tribus pratiquant ce rite passèrent dans la région à un moment quelconque de leur migration, ou bien eurent localement des contacts consécutifs aux échanges. Les Mandans, qui vivaient sur ces terres pendant la première moitié du XIXe siècle, connaissaient une version particulièrement violente de cette cérémonie. Si la danse du soleil était interprétée de différentes façons selon les tribus, certains éléments se recoupaient à un point tel que l'on peut affirmer qu'il s'agit bien de la même cérémonie. Le rituel durait plusieurs jours, et se déroulait à la fin de l'été ou au début de l'automne, alors que la terre est particulièrement prospère. La danse était organisée par une personne qui avait une supplique à présenter. Il n'était pas indispensable d'être un prêtre ou un homme médecine, et n'importe quel solliciteur qui avait une faveur urgente à demander ou qui s'était vu attribuer ce rôle au cours d'une vision pouvait déclencher la danse du soleil. Une grande loge, qui ouvrait vers l'est, était spécialement construite pour la cérémonie. Un poteau fourchu se dressait en son centre. Des objets sacrés prenaient place sur cette fourche, en particulier un paquet de broussailles et une peau de bison. Les participants faisaient face au plateau et dansaient longtemps, sans détacher les yeux des objets sacrés, sans doute jusqu'à en être hypnotisés. La partie la plus importante de la danse du soleil consistait en une mortification personnelle. Les protagonistes, généralement de jeunes guerriers, ne prenant ni boisson ni aliments, dansaient jusqu'à épuisement et se lacéraient parfois le corps ou se coupaient un doigt. Dans certaines tribus, le jeune homme qui avait fait le vœu de subir la souffrance se faisait assister par un homme médecine qui découpait deux petits trous dans sa peau et sa chair de chaque côté de la poitrine. L'homme médecine fichait des chevilles de bois dans les blessures et les attachait à deux cordes dont les extrémités étaient fixées au sommet du poteau central. Le jeune guerrier se mettait alors à danser en tirant de tout son poids sur les cordes. À la fin, s'il ne parvenait pas à s'arracher tout seul, le sorcier le libérait en coupant sa chair. La douleur éprouvée au cours de cette cérémonie, qu'il s'agisse de l'effusion de sang ou de la danse effectuée pendant des heures jusqu'à l'épuisement, était considérée comme la preuve ultime de la sincérité. Un chef Sioux, nommé chassé par les ours, indique à ce propos que le corps d'un homme lui appartient, et quand il donne un peu de son corps ou de sa chair, il offre la seule chose qui lui appartienne vraiment. Les sacrifices et les prières qu'impliquait la danse du soleil constituaient d'excellents investissements. Une fois la cérémonie rituelle terminée, l'Indien pouvait à nouveau compter sur une bonne santé, sur la fertilité de la nature et sur l'abondance de nourriture. Le monde était alors renouvelé, ses harmonies complexes restaurées, ses nombreux esprits revivifiés et prêts à ravitailler pour le bien-être de la tribu. Quand la terre des ancêtres devint propriété privée. En 1859, nombre de citoyens se rassemblèrent dans le nouvel hôtel de Black et William à Denver pour y entendre quelques remarques de Little Raven, Petit Corbeau, un des chefs les plus importants des Arapahos. Son discours ne fut pas long, et les nuances qu'il contenait sont perdues à jamais pour nous. Pour avoir bu trop d'alcool, l'interprète était tombé de son siège dès le début du discours. L'essentiel, cependant, demeure. Il disait qu'il aimait ses frères blancs et se félicitait de ce que les mineurs puissent trouver de l'or dans la région. Cependant, il espérait que l'occupation des Blancs ne durerait pas trop longtemps et soulignait que la terre aux alentours de la jeune cité de Denver appartenait aux Arapahos. Les édiles serrèrent la main de Little Raven et lui remirent des présents. Cet Indien, affable et courtois, leur était plutôt sympathique. Non sans une certaine condescendance, un de ses hôtes remarqua qu'il savait manier couteau et fourchette et fumer le cigare aussi bien que les Blancs. Cependant, les propos sur l'imminence du départ des Américains avaient aussi peu d'importance que la graine duveteuse à emporter des branches d'un peuplier par les bourrasques de la prairie. Les Blancs avaient bien l'intention de rester là où ils étaient, et les habitants de Denver ne se souciaient pas des assertions du chef indien selon lesquelles la terre appartenait aux Arapahos. Cependant, le concept de la propriété de la terre deviendra crucial et sera le nœud même du conflit entre les Blancs et les Indiens à mesure que les nouveaux venus empiéteront sur les territoires qui avaient formé autrefois le domaine exclusif de ce peuple. Pour l'Américain, la terre est une propriété privée, négociable, qu'il faut exploiter. On y vit, on la laboure et on y fait croître et paître des bêtes. À défaut, on en exploite les mines. De surcroît, ces terres où l'on vivait devenaient des propriétés individuelles. En disant que le sol leur appartenait, les Indiens avaient une autre notion des choses. Ils considéraient là qu'il s'agissait d'une propriété commune. Le guerrier possédait ses chevaux, son arc, ses flèches et son équipement de sache. De même, sa femme avait éventuellement des chevaux et surtout les peaux du tipi et les ustensiles de cuisine. La terre, elle, demeurait une propriété indivise. En bref, le sol était occupé, mais non détenu, au sens que donnent à ce mot les Blancs. En 1806, parlant des incursions des Blancs sur les territoires indiens, Tecumseh, un chef de la tribu des Suwannee, définit ainsi l'attitude de ses frères. Le seul moyen d'arrêter ce mal consiste pour les hommes rouges à s'unir et à réclamer un droit commun sur cette terre, conformément à l'état initial des choses qui doit être restitué. Car la terre n'a jamais été partagée. Aucune tribu n'a le droit de céder à une autre une portion quelconque du sol, et encore moins à un étranger. Vendre un pays. Et pourquoi ne négocierait-on pas l'air ou la vaste mer au même titre que la terre ? Les Indiens étaient très attachés à leur environnement. L'Indien de l'Ouest estimait qu'il faisait partie de la nature, dépendant d'elle plus qu'il n'était son conquérant. Il avait conscience que la morsure du soleil, de la poussière, de la si douce pluie et de la tempête de neige, il était impuissant à parer la menace du tonnerre. Et par-dessus tout, il se rendait compte de l'infinité des espaces qu'il lui fallait traverser sans laisser d'autres traces que celles de ses pas ou de l'empreinte des sabots de son cheval. La terre engendrait la solitude. Et l'homme n'était pas bien puissant face à la nature. De toute façon, et de toute évidence, et sans intervention humaine, le sol était fécondé par les graines, par la pluie, par le soleil, et engendrait des fruits. La terre, dans ce mode de raisonnement indien, était la mère terre. En d'autres termes, personne ne s'en attribuait la propriété et nul ne pouvait y prétendre. Plus tard, un grand chef Sioux Lakota, Ours debout, écrira: le Lakota est un véritable amoureux de la nature. Il aime la terre et toutes les choses de la terre avec un attachement qui croît avec l'âge. Les vieilles personnes deviennent amoureuses du sol. Elles aiment s'asseoir ou se reposer sur la terre avec la sensation d'être plus près d'une puissance naturelle et maternelle. Il est bon pour la peau de toucher la terre. Et les personnes âgées aiment ôter leurs mocassins et marcher pieds nus sur la terre sacrée. Ce contact est à la fois apaisant et revigorant, purificateur et salutaire. Cet amour de la terre était sincère, mais il relevait autant des pratiques que des croyances religieuses. La restriction des limites d'un territoire tribal entraînerait à coup sûr un changement dans le mode de vie du guerrier. La fière existence dans les plaines, les enivrants galops à la poursuite des bisons, une expédition à l'aube contre un campement ennemi, les actes héroïques et les coups évoqués devant le feu de bois du soir, l'auditoire admiratif et respectueux des femmes et des enfants tassés dans l'ombre, le visage faiblement éclairé par les lueurs fugitives du brasier, tout cela n'existerait plus. Au conseil de Medicine Lodge, qui se tient dans le Kansas méridional en 1867, Santana, qui était dit aussi Ours Blanc, un chef Kiowa, s'adressa en ces termes aux délégués du gouvernement fédéral. J'ai ouï dire que votre intention est de nous installer par-delà les montagnes. Une fois fixés dans ces lieux, nous pâlirons et nous périrons. Voici longtemps, cette terre a appartenu à nos terres. Mais quand je remonte la rivière, je vois des soldats cantonnés de part et d'autre. Ils font tomber mes arbres, tuent mes bisons. Et ce spectacle me brise le cœur. Je suis peiné. J'ai parlé. White Bear était un excellent diplomate. Et sa politique, celle d'un militant progressiste. Il avait cordialement accueilli les commerçants blancs et appris à jouer du clairon tout seul. Il faisait preuve de sagacité en déclarant que les gens appartenaient jadis à ses pères. Les Kiowa, en effet, avaient une excellente mémoire et se souvenaient du temps où leur peuple était descendu du nord. Mais la bonne volonté de White Bear ne conduisait à rien. Par des manœuvres franches ou déloyales, le gouvernement fédéral saisit entre 1840 et 1870 la terre des Kiowa et celle de beaucoup d'autres tribus. Au cours de la période d'acquisition la plus intensive entre les années 1853 et 1857, les Indiens cédèrent près de 70 millions d'hectares. Si la plupart d'entre eux ne se rendaient pas compte de ce qu'ils cédaient, certains comprenaient qu'ils renonçaient à jamais à tout bien. D'autres croyaient qu'ils n'accordaient que des droits de pâturage, de chasse ou de pêche, tout en gardant l'usufruit de ces mêmes territoires. Certains même imaginaient qu'il ne s'agissait que de droits de passage. Quoi qu'il en soit, la poussée qui visait leurs territoires ancestraux ne faisait que croître d'une façon dramatique. Le mouvement blanc vers l'ouest s'accélérait depuis 1840. Les panaches de vapeur des bateaux marquaient le cours du Missouri. Des convois de chariots tirés par des bœufs sillonnaient les plateaux, traversaient le Wyoming, franchissaient la passe du sud de la chaîne de la White River et faisaient route vers l'Oregon et la Californie. D'autres convois longeaient l'Arkansas et remontaient la Canadian River à travers le territoire des Kiowa. Pour protéger ses colons, le gouvernement américain éparpilla des postes de l'armée à travers l'Ouest. Les Indiens pensaient qu'il s'agissait d'installations provisoires. Mais, année après année, les cavaliers traversaient toujours le pays. Le roulement du tambour et les sonneries militaires devinrent habituels dans l'Ouest, au même titre que le crépitement des feux de camp allumés par les femmes des Apaches et des Kiowas, mais de manière un peu trop présente. De surcroît, les tuniques bleues n'étaient pas les seuls cavaliers blancs à sillonner les plaines. En 1857, les diligences de la ligne de Buttonfield entreprirent la première liaison pour le transport du courrier. Pour Los Angeles, elle quittait le Missouri et piquait vers le sud à travers les territoires indiens, en traversant le domaine des Comanches dans l'ouest du Texas, jusqu'au cœur du pays des Apaches dans le Nouveau-Mexique et l'Arizona. À bord des diligences et des bateaux, se pressaient les missionnaires, désireux de convertir les Indiens des plaines et de les amener à croire à un encore plus grand esprit. La fièvre de l'or, plus grande que jamais, était aussi forte que le désir de gagner des âmes pour l'amour de Dieu. En 1848, la poussée vers la Californie entraîna des milliers de personnes et engendra une tragédie imprévue. Quelques années plus tôt, les commerçants avaient amené la petite vérole aux gens des plaines. À présent, le choléra, venu d'Europe et de la côte Est avec les immigrants allemands, gagnait l'Ouest, apporté par les gens de la ruée vers l'or de 1849. Par bandes entières, les Indiens connurent une mort pénible et effrayante. On estime que la moitié des Cheyennes du Haut-Arkansas fut anéantie. L'Ouest recelait de l'or ailleurs qu'en Californie et dans le Colorado. Peu après 1860, les prospecteurs découvrirent des filons dans le Montana, à Bannock City et à Virginia City, et un afflux de blancs fondit sur la région. Pour eux, les hautes plaines ne constituaient qu'un grand désert américain qu'il fallait traverser. Les épaves des chariots marquaient les pistes tout au long desquelles le bois et le gibier avaient été détruits. À l'ouest du Mississippi, du Minnesota et de l'Arkansas, des villes frontières très frustes surgissaient et les colons émettaient des prétentions sur ces terres. Venus du sud-ouest, les éleveurs, californiens, texans et mexicains, poussaient leurs troupeaux à travers les longues cornes et sur les pâturages. Ils affirmaient que ces herbages n'appartenaient à personne et que, par conséquent, n'importe quel éleveur pouvait les utiliser. À partir de 1860, les Blancs, venus de l'Est, amenèrent des monstres d'acier qui roulaient sur des pistes en fer en haletant de la fumée et en crachant du feu. La marée blanche amorçait son flux et cette avance constituait une sérieuse menace pour le mode de vie des guerriers indiens des plaines et des montagnes. Cette poussée était accompagnée de discours aussi véhéments qu'impressionnants, dont le Congrès était le théâtre, ainsi que par de tonitruantes déclarations des éditorialistes des journaux de l'Est. Notre destinée manifeste est de submerger le continent que la Providence nous a alloué pour le libre développement d'une population qui se compte par millions et se renouvelle d'année en année. C'est ce qu'annonçait à grands coups de trompette dès 1845 le Democratic Review de New York. John L. O'Sullivan, le rédacteur du Review, traitait de l'éventuelle annexion du Texas, mais le terme de destinée manifeste qu'il employait et les idées que contenaient ses propos trouvèrent un certain écho chez les expansionnistes. « Notre grande mission, » annonça John Calhoun, sénateur de la Caroline du Sud, « est d'occuper ce vaste domaine continental. » L'idée de destin constituait davantage une rationalisation du mouvement qu'une force motrice. Le colon de la frontière cherchait avant tout des terres, de l'ordre et des chances. Il voulait avoir les coudées franches et l'opportunité de montrer ce dont il était capable, à condition que les règlements énoncés par l'organisation politique et économique en place à l'Est ne vinssent surtout pas limiter son action. Il partait d'une idée préconçue, admise de longue date, à savoir que les peuples indigènes des Amériques n'avaient aucun droit moral pour s'opposer à l'expansion de la civilisation européenne. Dès 1516, alors que les Européens n'avaient encore qu'une vue fragmentaire du Nouveau Monde, Thomas More, le philosophe anglais, avait forgé le terme « utopie » et l'avait adopté comme titre de son livre. Il définissait ainsi un peuple à la fois sage et animé par des idées sociales, vivant dans un état idéal sur une nouvelle terre au-delà de l'océan. Thomas More décrivait de nombreuses pratiques des utopiens, et entre autres leur réaction lorsque leur terre deviendrait surpeuplée. Ils émigraient vers des lieux que leurs habitants n'occupaient que partiellement et ils édifiaient une nouvelle cité soumise à leurs propres règles sur ce sol qui comptait tant d'espace libre. Le philosophe, ironiquement considéré comme un penseur libéral, poursuit ainsi. Si les colons rencontrent une nation qui repousse les lois de l'utopie, ils chassent cette nation de l'étendue du pays qu'ils veulent coloniser. Et s'il le faut, ils emploient la force des armes. Dans leur principe, la guerre la plus juste et la plus raisonnable est celle que l'on fait à un peuple qui possède d'immenses terrains en friche et qui les garde comme du vide et du néant, surtout quand ce peuple en interdit la possession et l'usage à ceux qui viennent y travailler et s'y nourrir. Près d'un siècle plus tard, Grotius, un juriste hollandais, appuya les thèses de More. Si, dans la limite d'un territoire, il existe des terres désertées et improductives, elles doivent être remises aux étrangers qui les demandent. Il est juste aussi qu'ils prennent possession de ce sol, car des lieux non cultivés ne doivent pas être considérés comme occupés. Grotius faisait toutefois une importante réserve. Le droit à la possession de cette terre, ajoutait-il, doit rester intact et en faveur des occupants initiaux. Dans une large mesure, telle était la politique suivie par le gouvernement fédéral. En règle générale et dès le début, les hautes autorités, elles du moins, prirent grand soin de tenir compte des intérêts des tribus. Le gouvernement reconnaissait les droits des Indiens sur leurs terres et, de traité en traité, la souveraineté des hommes rouges fut admise. Le principe de base de notre comportement à l'égard des tribus indiennes repose et reposera, écrit George Washington, sur la notion de justice. Par la suite, Thomas Jefferson fera écho à ce sentiment. Si les terres n'ont pas été au préalable cédées par les Indiens, il est nécessaire, écrit-il, que les requérants acquièrent leurs droits. Jefferson ne faisait qu'énoncer les principes de la politique américaine déjà établie par l'ordonnance de 1787 concernant le Nord-Ouest, texte qui servit de base au mouvement vers l'Ouest. Lui aussi mettait en avant la politique de la bienveillance. Et dans ce document historique, on pouvait lire « On observera toujours à l'égard des Indiens la plus totale bonne foi. Leurs terres et leurs biens ne leur seront jamais enlevés par la force. Leurs propriétés, leurs droits et leurs libertés ne seront jamais perturbés par suite de notre invasion, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations de guerre parfaitement légitimes et dûment autorisées par le Congrès. » Ah, il s'agissait de buts très respectables. Mais, aux yeux des Indiens, le grand-père, comme ils appelaient celui qui résidait à Washington, faisait souvent le contraire de ce qu'il disait. Cependant, la disparité entre les hauts idéaux exprimés à Washington et la politique menée de fait dans l'Ouest provenait moins des intentions tortueuses des Blancs que de la complexité du problème presque insoluble. En 1789, quand la nation vit le jour, elle comptait tout au plus que 4 millions d'individus répartis en une étroite bande courant le long de la côte orientale. Dès la présidence d'Andrew Jackson en 1829, la population s'élevait à 12,5 millions de personnes. L'avance vers l'ouest pour la conquête de nouvelles terres était considérable, et de ce fait, et au fil des ans, la pression sur les Indiens devient inexorable. Le gouvernement avait établi la législation concernant les affaires indiennes et signé des traités avec les tribus avant la création par le Congrès en 1806 du poste de surintendant du commerce indien au ministère de la guerre. Son rôle consistait à superviser le système des fabriques, ce qui permettait à Washington de fournir les biens de consommation à tous les Indiens placés sous sa juridiction. L'expérience ne manquait pas de noblesse, mais les tenants des intérêts commerciaux, désireux de réaliser des profits dans les ventes aux Indiens, provoquèrent son abandon en 1822. En 1824, le secrétaire à la guerre créa dans son département le Bureau des Affaires indiennes, organisme chargé de traiter, grâce au surintendant et à ses agents, tous les problèmes concernant les Indiens. En 1849, ce service fut transféré au ministère de l'Intérieur. À l'époque, le gouvernement fédéral avait déjà mis au point la plupart des mesures politiques dont il allait user dans ses rapports avec les résidents d'origine. La pratique qui consistait à déplacer les populations en s'appropriant leurs terres et en transférant les anciens propriétaires sur de nouveaux domaines situés plus à l'ouest remontait à la période coloniale. On installa les Indiens du sud-est, dont les Cherokees constituaient la nation la plus importante, à l'ouest du Mississippi, à la suite d'un accord imposé par le pouvoir américain. Les Blancs, et quelques Indiens aussi, estimaient qu'il serait mieux pour les tribus de s'éloigner de ces Européens sans principe et d'habiter des réserves où elles pourraient se développer à leur propre rythme. Cet argument contenait en fait des idées très justes. L'expérience décrite en Alabama fut typique de cet état d'esprit. Ils étaient d'accord pour se soumettre à la législation de l'État. En 1831, un chef de cette tribu se plaignit que 1500 colons installaient des fermes sur la terre indienne. La réponse de Washington consista à faire savoir aux Cris qu'ils seraient déplacés plus à l'ouest. En 1832, ils signèrent donc un traité qui les faisait renoncer à leur territoire de l'Alabama. Une cause de cet accord prévoyait que, à titre individuel, les cris pouvaient rester sur de petits domaines. Mais les Blancs ne tardèrent pas à usurper ces terrains-là aussi. Le processus comportait un jeu de filouterie classique. On énivrait le propriétaire et on lui faisait signer un acte de vente. Ou bien on soudoyait un Indien pour qu'il jouât le rôle du propriétaire de tel lot et il apposa son signe particulier sur les papiers concernant la vente. On fabriquait des fausses pièces, ou enfin, on agissait tout simplement sur la procédure auprès du tribunal. Vers 1835, il n'y avait plus en Alabama un seul propriétaire terrien de la nationalité crie. Et après un soulèvement, les derniers représentants de la tribu furent obligés d'aller rejoindre leurs frères dans les territoires indiens. Le principe des réserves n'était pas la solution idéale au problème. Dans sa conception initiale, ce domaine n'avait rien du camp de concentration. L'Indien pouvait en effet en sortir au gré de sa volonté, ce qui se produisait en fait assez fréquemment poursuivant le gibier. La réserve était donc une terre mise à part, une sorte de patrie, en principe libre de toute action de la part des Blancs. Il arrivait souvent que dans un traité ou un accord prévoyant la création d'une réserve, les Indiens cèdent d'autres territoires aux États-Unis. Ainsi, en 1861, les Arapahos, dont le chef était Little Raven, Petit Corbeau, renoncèrent virtuellement à tous leurs droits sur les territoires qu'ils possédaient dans le Nebraska, le Kansas, le Colorado et le Wyoming, ne conservant qu'un axe de passage dans l'est du Colorado. En plus de l'argent liquide qu'il versait aux Indiens, le gouvernement mettait souvent en avant d'autres considérations. Ainsi, le traité pouvait éventuellement prévoir l'établissement de forgerons, de meuniers, de maîtres d'école et de cadres agricoles, ainsi que l'équipement approprié. Ce genre de document prévoyait souvent le versement d'annuités sous forme de nourriture et de marchandises, ainsi que de petites sommes à dépenser auprès d'un commerçant agréé, plutôt qu'un important forfait. En théorie, la politique des États-Unis faisait appel au bon vouloir, mais en pratique, ce système des annuités encourageait, aux yeux de certains, l'indolence des Indiens. C'était en partie vrai et à peine surprenant. Les Indiens, comme le remarqua le surintendant des affaires indiennes du territoire de l'Oregon, ne sont guère désireux de pratiquer l'industrie ou de favoriser l'économie du pays si leurs besoins peuvent être satisfaits d'une autre façon. On ne pouvait guère les en blâmer, mais le système présentait aussi d'autres failles. Les biens en nature, fournis annuellement, étaient de qualité médiocre ou mal adaptés aux nécessités des Indiens. De surcroît, si du fait d'erreurs administratives et en raison de vols caractérisés effectués par les fonctionnaires ou les commerçants blancs, ces marchandises n'arrivaient pas en temps utile. Et alors, la famine s'abattait sur les Indiens. Cette politique avait un but inavoué. Pour pacifier les Indiens belliqueux, il fallait les transformer en agriculteurs. De paisibles fermiers, voilà ce que les courageux guerriers indiens devaient devenir. Les habitudes de chasse et de guerre des hommes rouges était appelé à disparaître au profit de la charrue des Blancs. Mais cette politique eut de piètres résultats. Peu de guerriers s'intéressaient à l'agriculture. Il s'agissait de tâches plutôt réservées aux femmes. De surcroît, même s'il y avait eu des volontaires, les techniques en usage sur la côte de l'Est et que le gouvernement s'efforçait d'apprendre aux Indiens ne convenaient que très rarement au sol aride des plaines. L'agent indien, un employé du bureau des affaires indiennes, était l'un des éléments essentiels de la politique des États-Unis. Sa tâche, parfois dangereuse, consistait à répartir les fournitures et les redevances annuelles à des tribus souvent hostiles, ainsi qu'à veiller au respect des accords entre les deux parties. Si les Indiens faisaient confiance à ce fonctionnaire et si, à son tour, il éprouvait de la sympathie à l'égard de ses ressortissants, les idéaux promus par cette politique cadraient avec la réalité, mais les bons agents étaient rares. William Bent figurait parmi les meilleurs, très peu nombreux. Par contre, les médiocres et les incapables étaient légion. Eh bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Nous allons retrouver nos petits Indiens la semaine prochaine. Remarquez, on connaît déjà la fin du feuilleton, hélas. Eh bien, je vais dire un petit au revoir à Nico qui toutouillait les boutons derrière la vitre. Et à vous, je vais dire comme d'habitude, à la prochaine fois, même endroit, même heure.